Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les tumeurs neuroendocrines et plus particulièrement leur prise en charge chirurgicale. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Muriel Matonnet. Professeur Matonnet, bonjour.
Bonjour.
Professeur Matonnet, vous êtes chirurgien digestif, professeur des universités et praticien hospitalier, chef du pôle chirurgie digestive générale et endocrinienne au CHU de Limoges, et vous êtes également vice-président de recherche du CHU de Limoges. Alors, professeur Matonnet, pour débuter notre entretien, quels sont les types de prise en charge chirurgicale des tumeurs neuroendocrines ?
Alors, les tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs donc, qui sont rares, et il faut d'emblée différencier ce qui correspond aux tumeurs neuroendocrines développées à partir du duodénum et du pancréas, c'est un bloc complet, on dit des tumeurs duodéno-pancréatiques, et celles qui sont développées aux dépens du tube digestif, et les plus fréquentes, la localisation les plus fréquentes, c'est la localisation du grêle. Donc, quand on parle de prise en charge, d'emblée, elles sont rares. Donc, d'emblée, il faut avoir à l'idée qu'à partir du moment où on suspecte une tumeur neuroendocrine, qu'elle soit du duodénum ou du pancréas ou du grêle, il va falloir discuter sa prise en charge en pluridisciplinaire, c'est-à-dire en fait en réunion de concertation experte. Et elle va être, cette prise en charge va être discutée et revue tout au long du parcours du patient. Donc avant la chirurgie, après la chirurgie et plus que régulièrement. Pourquoi avant la chirurgie ? Parce que, quelle que soit la localisation, il va falloir envisager s'il existe des symptômes, et les symptômes d'une tumeur neuroendocrine sont variables, va dépendre s'il y a une sécrétion d'hormones en rapport avec la tumeur ou pas de sécrétion d'hormones. S'il y a une sécrétion d'hormones, il faut envisager une préparation à la chirurgie. La deuxième chose, on va aussi considérer dans la préparation le volume de la tumeur. Si c'est une grosse tumeur, d'emblée, il faut évaluer si ça va imposer une résection d'un organe, de plusieurs organes, d'une longueur importante du greffe. Si c'est une petite tumeur, toutes ces questions, on ne va pas se les poser. On va se poser d'autres questions par rapport à la localisation proche de vaisseaux, proche de l'aorte, etc. Donc, plusieurs éléments doivent être pris en compte, d'où l'importance d'en discuter avec le radiologue, avec l'endocrinologue, avec le cancérologue, pour savoir et pour bien connaître s'il y a des sécrétions, pas de sécrétions, comment on les traite. Est-ce qu'il y a des symptômes ? Principalement, ça va être de la diarrhée, ça va être des flushes, ça va être un amaigrissement. Comment on le prend en charge ? D'un point de vue fonctionnel, qu'est-ce que ressent le patient ? Et puis, il y a le patient, il y a sa tumeur, où est localisée la tumeur ? Duodénum pancréas. Pancréas, ça peut être à gauche, ça peut être au milieu, ça peut être à droite contre le duodénum, le geste ne va pas être le même. Au niveau du grêle, où est-ce située la partie terminale ? Est-ce qu'il y a des risques de complications ? Pas de complications. Quelle est l'implication autour des autres organes ? Alors, pourquoi j'ai dit on différencie tumeur du duodénum pancréas versus tumeur du grêle ? Parce que déjà, la prise en charge va être différente. Sur les petites tumeurs du duodénum ou du pancréas, principalement du duodénum, elles peuvent être prises en charge par endoscopie. Elles ne vont donc pas toujours imposer un acte chirurgical qui peut être lourd. Si la tumeur dépasse 2 cm, le plus souvent, il va falloir retirer la partie de l'organe. Si c'est au niveau du pancréas et du duodénum, donc il faut retirer toute cette partie droite. C'est une chirurgie qui est lourde, qui demande, alors en durée opératoire, il faut compter entre 5 et 6 heures, ça dépend, qui a risque puisqu'il y a pas mal de gros vaisseaux et qui va avoir des conséquences à court terme avec des risques d'hémorragie, des risques de fistules, mais également à long terme avec des risques de diabète. Lorsque les tumeurs sont au niveau de l'intestin grêle, le parcours et la prise en charge est un petit peu différent. Sur l'intestin grêle, le premier élément qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, elles peuvent être avec des symptômes. Le premier symptôme, ça va être l'occlusion ou l'hémorragie ou la douleur, qu'on ne va pas pouvoir les retirer par célioscopie, car dans la très grande majorité des cas, on voit par les examens une lésion, mais que très souvent, en fait, il y a plusieurs autres petites lésions associées. Si on ne retire pas toutes les lésions, on va obligatoirement avoir une récidive et on n'aura pas traité de façon curative le patient. Il faut en plus aller retirer au niveau de l'intestin grêle ce qui correspond au drainage lymphatique. Donc, il faut faire un curage ganglionnaire et il faut le faire en sécurité en cours d'intervention, au moment de l'intervention et surtout en gardant toujours à l'esprit qu'il faut, lorsque l'on fait ces gestes de résection intestinale et de curage ganglionnaire, savoir ce que l'on va laisser. Le patient vit avec ce qu'on lui préserve et non point avec ce que l'on retire. Et il faut donc pouvoir s'assurer, être sûr de pouvoir garder une longueur de grêle suffisante, plus de 2,50 m, pour assurer une qualité de vie correcte après. Donc, on prend en permanence en compte tous ces éléments dans la réflexion et dans les indications. Le patient participe à la prise de décision et donc au choix thérapeutique.
Et est-ce que cette approche chirurgicale évolue en cas de métastase et notamment de métastase hépatique ?
Les métastases, la prise en charge des métastases hépatiques, de tumeurs neuroendocrines, c'est une prise en charge qui est un petit peu spécifique et qu'il faut pas mettre en parallèle la prise en charge des métastases hépatiques, des adénocarcinomes du tube digestif, du côlon, du rectum, beaucoup plus classique. Là aussi, métastase de tumeur neuroendocrine, et parfois d'ailleurs, la tumeur neuroendocrine est diagnostiquée sur la métastase. Ça doit être discuté également en comité pluridisciplinaire expert. C'est ce qu'on appelle nos comités Renaten. Et il faut savoir que ces métastases des tumeurs neuroendocrines sont exceptionnellement uniques. Elles sont très souvent multiples, parfois de très petite taille, et que l'examen de référence ne va pas être le scanner. Le scanner va montrer les grosses lésions, mais l'examen de référence reste l'IRM avec injection de gadolinium, qu'il faut coupler cet examen centré sur le foie sur un examen plus général pour être sûr que s'il y a des métastases hépatiques, sont-elles associées ou pas avec des métastases ailleurs ? La deuxième site, très souvent, c'est l'os, donc il faut aller les rechercher. Les scintigraphies métaboliques que l'on utilise à l'heure actuelle, c'est principalement la TEP gallium, c'est ce qu'on appelle un dotatoc. Et on sait que on peut avoir des métastases hépatiques diagnostiquées l'IRM, avec une IRM qui est bien faite, et que celles qui vont fixer le dotatoc sont les plus différenciées et vont répondre le mieux aux thérapies que l'on va leur proposer, et principalement à la thérapie maintenant qui commence à bien monter également en France, puisque de plus en plus de centres l'ont mis à disponibilité des patients. C'est la RIV, c'est la radiothérapie interne vectorisée. Donc, la première approche des métastases hépatiques des tumeurs neuroendocrines n'est pas une approche chirurgicale, c'est une approche de bilan le plus précis possible. Et ce bilan a pour but de déterminer le nombre, la taille, la localisation au niveau du foie, droit, gauche ou bilatéral, et leur expression des récepteurs à la somatostatine. Et l'approche chirurgicale va dépendre, et la chirurgie se place en fait à presque un deuxième niveau. Et la chirurgie va être indiquée en fonction du nombre de métastases, de leur localisation, on a exactement le même raisonnement, et puis du grade d'agressivité de cette tumeur neuroendocrine et donc de leur capacité d'évolutivité. Donc, le but, c'est de détruire par tous les moyens que l'on peut avoir, et on a donc différents moyens, la chirurgie, la radiothérapie interne vectorisée, la radiofréquence, qui est une espèce d'ultrason qui brûle les métastases. Tous ces moyens peuvent être utilisés soit en même temps, soit de façon séquentielle, soit sur des périodes qui peuvent être excessivement différentes, mais avec toujours un même but, un, détruire un maximum, deux, préserver la fonction hépatique.
C'est très clair, professeur Matonnet. Et en termes de suivi, quel est le suivi post-chirurgie proposé aux patients ?
Le suivi post-chirurgie, il faut déjà partir en tête que on va suivre les patients très longtemps. Très longtemps, parce que la survie, même si on a une tumeur neuroendocrine avec des métastases hépatiques, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on est sur des suivis prolongés. Et ça va reposer, ce suivi, sur les imageries répétées, sur la prise en charge des sécrétions, en sachant que l'imagerie répétée, On a compris qu'il fallait éviter par l'imagerie et par les scanners répétés de trop irradier les patients. Donc, le choix de la bonne imagerie, et très souvent, maintenant, on va proposer des scintigraphies qui sont beaucoup moins irradiantes, en privilégiant la scintigraphie qui parle le mieux. Je vous ai parlé du Dotatoc, il y en a d'autres. Et donc, ce n'est pas parce qu'on dit non résécable à un moment que 6 mois, 1 an, 3 ans après, on va continuer à dire non résécable. Donc, la chirurgie peut en permanence, tout au long du suivi du patient, être rediscutée.
Et pour conclure notre entretien, professeur Matonnet, dans le cadre de cette prise en charge chirurgicale des tumeurs neuroendocrines, quelle est la place de la gestion de la douleur et de la sténie ?
Alors, la place de la gestion de la douleur, je crois qu'il faut différencier la douleur post-opératoire, en rapport en tout cas avec un acte invasif. On gère la douleur avec les antalgiques de palier 2, de palier 3. Palier 3, c'est la morphine. Bon. Et puis, tout ce qui est des douleurs à moyen et à long terme, où là, quand il y a des douleurs sur le temps long, on a à prendre en compte l'importance, le niveau de la douleur, évidemment, les facteurs déclenchants, etc. Mais surtout, si on a une douleur qui apparaît après une période totalement indolore et de confort de vie correct, gardez à l'esprit que ça peut être une récidive plus qu'une complication de la chirurgie. Et je parle du long terme. Donc, peut-être relancer, anticiper les examens et les explorations qui avaient été programmés. Donc, la douleur, et je parle de la douleur à long terme, qui peut apparaître au cours de la maladie, doit être un signe d'alerte pour aller rechercher une évolution de la maladie qui, a priori, quand on la suivait, semblait être une maladie plutôt bien stabilisée et bien contrôlée. Donc, signe d'alerte. Mais il est évident que c'est le niveau de la douleur qui va imposer, qui va guider le type d'antalgique que l'on va utiliser. Et la fatigue, c'est quelque chose de normal après un acte chirurgical. C'est quelque chose de normal, mais qui, à mon sens, doit être anticipé et, j'ai envie de dire, prévenu. Et se sont développés, là, sur les 10-15 dernières années, tous les programmes de coaching, de préparation à la chirurgie, c'est de la préparation physique, c'est de la préparation nutritionnelle, c'est de la préparation mentale, c'est ce qu'on appelle la préhabilitation. Et ce sont des programmes qui sont très importants, car on sait que plus on arrive fatigué à la chirurgie, plus cette fatigue va être aggravée par la chirurgie, plus le patient, après, sur le long cours, va avoir du mal à récupérer. Donc, ces programmes diminuent de manière significative la fatigue et vont favoriser une reprise plus précoce de l'activité. Et les associations de patients, les ligues contre le cancer, proposent ce type de programme. Et moi, j'incite beaucoup mes patients à y rentrer. Mais cette asthénie, bien sûr, il faut essayer de la prévenir un maximum et essayer de l'accompagner même après, avec toujours des coachings, des adaptations et de traitements, etc. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à se rapprocher des associations de patients. Et entre autres, il y a l'Association des patients porteurs de tumeurs endocrines diverses, les APTED. Ça a été créé en 2009 et ça permet d'avoir une écoute, échange, ça évite l'isolement. Et puis, il y a une mise à jour permanente à destinée des patients et qui permet justement de prendre en compte le retour patient. Maintenant, il y a beaucoup de centres qui proposent des questionnaires à destinée patients pour qu'ils nous fassent le retour. Et nous, on les analyse pour les prendre en compte et pour mieux accompagner.
Eh bien, merci mille fois, professeur Matonnet, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare que sont les tumeurs neuroendocrines, et notamment leur prise en charge chirurgicale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.